et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Dans le dialogue des religions de ce mercredi 6 janvier 2016, la crise entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème politique ou religieux? Au micro, Idrissa Sidoudia, en compagnie de ma collègue Kadiatou Traoré, à qui on va laisser le temps de s'installer, notre invité ce soir, le professeur Souleyman Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York. Professeur, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Kadiatou, bonsoir.
Bonsoir Idrissa.
Alors, pour participer à l'émission et poser des questions au professeur Diagne, Kadiatou, rappelez aux auditeurs comment ils peuvent le faire.
Alors, ils peuvent appeler au numéro 001 202 619 31 40 ou envoyer des SMS au 225 58 92 85 40.
Et pour vous permettre de reprendre votre souffle, parce que il y aura un texte tout à l'heure que vous devriez nous livrer. Alors, au 257 755 56 000, au 221 765 727 293, et au 223 94 11 39 19. Voilà les numéros auxquels vous pouvez nous envoyer des SMS. Pour commencer, qu'est-ce qui a déclenché la dernière crise entre l'Arabie saoudite et l'Iran, Kadiatou?
Alors, pendant le week-end, Riyad a exécuté pour terrorisme 47 personnes, dont le cheikh Nimr al-Nimr, connu pour ses critiques contre la dynastie sunnite des Saoud. Il était aussi considéré comme un leader de mouvement de protestation de 2011 dans l'est de l'Arabie saoudite, une région où vit le gros de la minorité chiite. L'exécution d'Al-Nimr a aussitôt déclenché des manifestations de chiites de la région, dont ceux de l'Iran, où des centaines de manifestants en colère ont partiellement détruit l'ambassade d'Arabie saoudite à Téhéran et son consulat à Mashhad. En réaction, l'Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, suivies par Bahreïn, le Soudan et Djibouti, tandis que les Émirats arabes unis redisaient leurs relations diplomatiques avec Téhéran.
Bien, merci Kadiatou pour ces précisions. Alors, professeur, maintenant, je voudrais, avant de vous demander de nous parler de la différence entre chiites et sunnites, je voudrais voir si j'ai bien compris ce que m'avait dit un de vos collègues au sujet de cette scission. Après la mort du prophète Mohammed, il s'agissait de savoir qui devait lui succéder, Ali son gendre ou Abou Bakr, qui est devenu finalement le premier calife. Ali deviendra plus tard le quatrième calife, mais tout a commencé sérieusement à se gâter après la mort d'Ali, avec la dynastie des Omeyyades et le calife Yazid, dont le régime était particulièrement dur. Le petit-fils du prophète Hussein s'est révolté contre Yazid et à Karbala, dans le sud de l'Irak, il a été intercepté et tué avec 72 membres de son groupe, qui incluait sa famille, des femmes et des enfants. Alors depuis cette date, 680, cette tragédie est commémorée par les chiites qui se punissent pour n'avoir pas su protéger le petit-fils du prophète. Est-ce que j'ai bien compris ce que m'avait dit votre collègue professeur Diagne?
Ah mais tout à fait, vous avez parfaitement résumé les choses. Donc vous avez bien vu que vous avez bien expliqué que la question était au départ une question politique, on va dire politique au sens large, qui devait être calife. Le mot calife signifiant successeur, successeur donc du prophète. Évidemment, ne pas lui succéder dans la prophétie, puisque la prophétie était achevée, mais lui succéder à la tête de la communauté. Et donc, vous avez tout à fait clairement indiqué les péripéties qui ont fait que le premier calife a été Abou Bakr, Ali sera lui-même calife, évidemment, quatrième calife après Abou Bakr, Omar et Ousmane. et son califat se terminera tragiquement puisqu'il sera assassiné. Et son assassinat laisse libre champ à ce moment-là à la première dynastie qui s'installe, puisque jusque-là, il n'était pas question de dynastie. Abou Bakr n'aurait pas pensé se faire succéder par son fils, ni Omar, ni Ousmane. Et les Omeyyades installent un principe dynastique. Et ils sont, autant les quatre premiers califes étaient des êtres de grande piété, autant les Omeyyades vont se distinguer par d'abord une morale individuelle qui laissait à désirer sur le plan de l'éthique islamique, et d'autre part des exactions qui font qu'une révolte va se produire. Les habitants de Koufa en Irak vont eux-mêmes faire appel à Hussein, petit-fils du prophète et fils d'Ali, en lui disant « Viens donc, toi seul est légitime, toi seul peux nous diriger, etc. » Et quand il viendra les trouver avec une toute petite troupe, ils ne se porteront pas à son secours. Yazid fait massacrer la petite équipe. Il ne laisse vivant qu'un seul fils de Hussein, parce qu'il était lui-même très malade et mourant. Ils se sont dit que ce n'était pas la peine de le tuer. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que la rupture va être véritablement consommée. La rupture chiite-sunnite sur le plan politique n'intervient pas vraiment au tout début, parce que Ali lui-même va accepter le califat d'Abou Bakr, il va accepter le califat d'Omar, il va accepter le califat de Ousmane. Mais la rupture s'effectue en ce moment absolument dramatique et tragique qui est le massacre de Hussein et de sa famille. Et c'est là que la rupture entre les chiites, c'est-à-dire les partisans d'Ali et de sa famille, et ceux qui vont s'appeler eux-mêmes des sunnites, c'est-à-dire les continuateurs de la tradition du prophète, c'est là que cela va se cristalliser. Et par la suite, maintenant, une rupture qui a eu lieu sur la question politique de la succession va en quelque sorte s'approfondir théologiquement au cours du temps, si vous voulez. Il va y avoir une élaboration d'une lecture chiite de l'histoire, de l'histoire religieuse, qui estimera par exemple que la prophétie devait ensuite se poursuivre par l'imamat. Que l'imamat a une signification religieuse qui est que les différents imams devaient en quelque sorte succéder au prophète, parce qu'il était normal que la prophétie fût continuée par l'imamat. Et vous avez donc des élaborations doctrinales qui vont faire que vous aurez deux approches théologiques différentes. Mais la différence ne touche pas véritablement au dogme, c'est le même texte religieux, c'est le même Coran, c'est la même reconnaissance prophète, etc.
Merci. Merci beaucoup, professeur. Je crois que c'était une explication très claire, très exhaustive et c'était plutôt instructif, n'est-ce pas, Khadija?
Ah oui, bien sûr. Sur la question, moi, je vois certaines réponses de cette crise qui se passe aujourd'hui. Et elle est d'autant plus profonde depuis la nuit des temps, ça existe, et qui revient encore, qui refait surface entre les chiites et puis les sunnites.
Nous en reparlerons, on verra la version moderne de cette scission tout à l'heure avec le professeur. Mais en attendant, on me dit qu'on a en ligne Alphonse Mouakir.
Oui, Alphonse, si vous m'entendez, vous avez la parole.
Bonsoir, madame. Kadiatou ici, ça fait du bien. Bon, je voulais savoir, poser la question concernant la question dont vous faites allusion. Quelle différence y a-t-il entre les chiisme, les sunnisme, les alaouites? L'alaouites, c'est la tribu de Bachar al-Assad, hein, et puis les druzes. On dirait que Lomé en a déjà parlé, alors je ne sais pas si vous pouvez. Vous pouvez peut-être répéter encore, vous donner la différence entre les quatre branches de l'islam.
Ok, alors professeur Alphonse, qui nous appelle de Kinshasa, c'est un habitué de cette émission, voudrait, bon, vous avez déjà parlé des chiites, vous avez parlé des sunnites, de la succession du prophète, de Karbala, ce qui s'est passé après les Omeyyades et tout. Maintenant, il voudrait savoir, et là c'est à cause de ce qui se passe en Syrie, les Alaouites et les Druzes que l'on trouve essentiellement au Liban, je crois, n'est-ce pas?
Oui, les Druzes, vous les trouvez pour l'essentiel au Liban. Vous savez, une fois que l'on a parlé de la grande division entre sunnites et chiites, il faut maintenant, pour entrer dans le détail du chiisme, rappeler que le chiisme, lui aussi, comporte plusieurs branches. J'ai dit en gros tout à l'heure que le chiisme se caractérise, se cristallise autour de la notion d'imama. L'imama, c'est-à-dire la succession des imams qui devait normalement être à la tête de la communauté. Il y a Ali, évidemment, qui pouvait être le premier imam. Il y a aussi des enfants d'Ali, Hassan d'abord, Hussein ensuite, et les descendants d'Ali, et de Hassan, etc. Mais maintenant, les branches vont se former selon le nombre d'imams considérés. Le chiisme la branche démographiquement la plus importante, c'est la branche du chiisme dit duodécima, c'est-à-dire un chiisme qui reconnaît 12 imams, mais vous avez un chiisme qui n'en reconnaît que 7, un chiisme qui en reconnaît 3, et à chaque fois, c'est la même histoire qui est présentée. Il y a un imam caché, la branche s'est interrompue, mais à la fin des temps, elle va être restaurée parce que l'imam va revenir. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez les branches sont extrêmement différentes. Les Alaouites de Syrie qui se sont donné ce nom à partir de Ali, si vous voulez, ce sont des chiites qui reconnaissent 7 imams, et ce qu'on appelle les septimaniens. Voilà. Et donc, il y a une communauté dans la constitution de l'imamat, mais il y a des branches, encore une fois, selon les imams qui sont reconnus, parce que ce ne sont pas toujours les mêmes imams, ce n'est pas toujours la même liste d'imams qui est reconnue. La plus importante, encore une fois, des branches, c'est le chiisme duodécimain. Mais votre auditeur, Alphonse, a tout à fait raison. Les Druzes sont une branche particulière du chiisme, qui ajoute d'ailleurs à leur reconnaissance d'un certain nombre d'imams le fait qu'il y a aussi des ouvrages, des livres, des traditions devenues des livres que les Druzes considèrent. Mais les Alaouites sont eux reconnaissent 7 imams. C'est aujourd'hui les Alaouites qui sont au pouvoir en Syrie.
Ok, merci. Professeur, je ne sais pas si Yao Akban est toujours en ligne. Yao, est-ce que vous êtes encore en ligne? Allô, Yao? Alors, nous allons à Bakary Traoré. Bakary, vous avez l'antenne.
Ouais. Donc, j'aimerais quand même poser une question. Comme on le dit que c'est la goutte d'eau quand même qui fait déborder le vase, là. Si vous vous rappelez, par exemple, lors des événements tragiques là, de la Mecque, l'Iran quand même a haussé le ton. Est-ce que c'est pas peut-être une manière aussi pour l'Arabie Saoudite aussi de payer quand même la dette? C'est une question quand même que je pose vraiment à notre invité.
Ok, alors professeur, vous avez entendu la question de Bakary Keïta?
Pas vraiment. Donc les événements de la Mecque, il a parlé des événements de la Mecque.
Oui, parce que l'Iran avait haussé le ton et accusé l'Arabie Saoudite de négligence, j'allais dire criminelle. Alors il se demande si en réalité, donc, ce n'était pas un retour de bâton.
Oui, évidemment. Vous savez, le contentieux entre les deux pays est tellement profond que tout événement est comptabilisé, si vous voulez. À chaque fois, il s'agit de marquer des points. c'est vrai que pour les événements de la Mecque, l'Arabie, visiblement, était en faute, puisqu'elle avait la responsabilité d'organisation du pèlerinage et la plupart des morts dans cet événement malheureux étaient des pèlerins iraniens. Mais vous savez, dès lors que vous avez cette rivalité très profonde entre les deux pays, entre les deux puissances, que sont les puissances régionales, que sont l'Arabie et l'Iran, évidemment, tout ce qui se passe va être comptabilisé. Est-ce que ça n'a pas commencé avec les événements de la Mecque? Mais c'est vrai que ça devait être aussi dans l'esprit des Iraniens. Il y a eu des manifestations au moment où cela s'est passé. L'Iran avait parlé d'une voix extrêmement forte. Je crois que l'Arabie avait répondu pas sur le même ton parce qu'elle se sentait quand même en faute. Ça s'était passé sur son territoire. Donc, et là, évidemment, ça... l'expression qui a été utilisée de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pourrait en effet être utilisée. Vous savez, permettez-moi de dire une chose d'ailleurs, parce que il ne faut pas avoir l'impression que le conflit n'est que théologique, qu'il s'agit de la théologie chiite contre la théologie sunnite. Il y a des éléments géopolitiques réels qui font que sur le plan régional, ces deux États que sont l'Arabie saoudite et l'Iran sont en compétition. Une des marques de cette compétition, c'est le simple fait de nommer le fameux détroit, le golfe en question.
Golfe persique, oui.
Ou golfe arabique.
Ouais.
Là, ça vous indique, voilà un signe très clair qu'il s'agit d'une question géopolitique. Et c'est parce que l'Iran, à un moment donné de son histoire, est devenu un État où la religion officielle était le chiisme. Jusque-là, il n'y avait pas eu, cela. Il y a eu une dynastie chiite qui a régné sur l'Égypte à un moment donné, entre le 9e siècle et le 11e siècle. Celle des Fatimides, qui étaient des Ismaéliens, des chiites, à nombre 7, de 7 imams, si vous voulez. Mais à l'époque moderne, c'est au 16e siècle que l'Iran est devenu officiellement un État chiite, où la religion majoritaire, l'interprétation majoritaire de la religion islamique était le chiisme, alors que jusque-là, vous aviez évidemment des communautés chiites, mais qui n'étaient pas organisées véritablement en État. Alors, l'Iran, de ce point de vue-là, est l'État des chiites, si vous voulez, alors que l'Arabie saoudite se présente, elle, comme l'État des sunnites. Mais ce sont, encore une fois, des rivalités géopolitiques qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il ne faut pas avoir l'impression qu'il y a une sorte de lutte cosmique entre chiites et sunnites et qu'ils se sont battus depuis toujours.
Oui.
C'est faux. Vous aviez beaucoup de communautés chiites qui vivaient parmi les sunnites, etc. Ce n'était pas des combats permanents. Une fois maintenant que vous avez des rivalités géopolitiques, évidemment, ça devient autre chose.
Et on l'a vu au Yémen, on l'a vu à Bahreïn, et on l'a vu aussi en Syrie, où l'Arabie saoudite appuie les rebelles sunnites. Et naturellement, en Irak, on voit nettement l'influence de l'Iran. Donc, il y a ces réalités géopolitiques. Et dans l'est de l'Arabie saoudite, il y a la minorité chiite qui pourrait aussi créer un problème à la stabilité de la dynastie al-Saoud au pouvoir.
Absolument, parce que là, il faut rappeler, ils sont quand même 10% de la population saoudienne. Ça n'est pas rien.
Ce n'est pas rien du tout. Mm-hmm. Alors, je crois qu'on a un autre auditeur.
Rappelons à nos auditeurs qu'ils écoutent le dialogue des religions l'édition d'aujourd'hui, mercredi 6 janvier. Nous parlons de la crise centrale entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Et pensez-vous qu'il s'agit d'un problème politique ou religieux? Nous avons comme invité ce soir le professeur Souleymane Béchir Ndiaye de l'Université Columbia à New York.
Alors permettez-moi de dire Diagne en tant que Sénégalais.
Diagne.
C'est pas facile, hein?
Ah oui, c'est pas facile.
Ok, alors nous avons Aymar Dimi. Aymar, vous avez l'antenne.
À la Voix d'Amérique, Aymar Dimi depuis Congo-Brazzaville. Nous avons tous remarqué que la mise en exécution de Cheikh Al-Nim, qui est sunnite originaire de, de l'Iran, avec les 47 autres membres. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, quel est ce concept, le concept de tactique qui controverse l'islam, qui est tellement trop présente à l'arabisme, fort d'une islamiste un peu religieuse, que les dirigeants saoudiens arrivent à mettre en exécution. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, et comme infidélité du kafir.
Professeur?
Excusez-moi.
Alors, on a perdu Ayman, mais je n'ai pas très bien saisi non plus, parce que la ligne n'était pas très bonne, mais j'ai entendu parler d'infidèle, ainsi de suite, à savoir est-ce que...
D'infidélité.
Voilà.
Oui. Ben écoutez, oui, dans ces, j'imagine que la plupart des condamnés, ils parlaient des condamnés, n'est-ce pas?
C'est ça.
Exécutés sous l'accusation. Je crois que l'accusation officielle lancée par l'Arabie Saoudite était terrorisme. L'Arabie Saoudite les a accusés de terrorisme. Et d'ailleurs, toute la question pour le cheikh Al-Nim qui a été exécuté était de savoir s'il était simplement quelqu'un qui critiquait le régime ou quelqu'un qui avait réellement commencé à mettre en place un réseau terroriste, ce dont il a été accusé. C'était ça le chef d'accusation.
Et les Iraniens ont encore parlé du régime saoudien comme étant un régime d'infidèles, de kafirs. Je crois que aussi notre auditeur essayait de parler de ça.
Quand même, moi, j'ai une question à poser au professeur. Et c'est de savoir, est-ce que cette crise va pouvoir aura une grande influence sur le monde musulman africain, les pays africains à majorité musulmane. Parce que je vois déjà que la Somalie et Djibouti qui ont...
Le Soudan et Djibouti
qui ont rompu déjà leurs relations avec l'Iran. Est-ce qu'il y aura une grande influence de cette crise, un impact assez considérable sur les pays musulmans? Parce que il y a des gens qui nous ont posé la question ici, ils disent que quand ils pensent que ces deux grands pays financent l'éducation dans les pays musulmans africains, et ça leur fait peur.
Oui, je ne crois pas. Écoutez, c'est vrai que les pays les plus proches du champ, si je puis dire, ont réagi. Le fait que les Émirats Bahreïn ont réduit leur représentation diplomatique, le Soudan a suivi l'exemple de l'Arabie Saoudite en rompant les relations diplomatiques. Mais ce sont des pays relativement proches, si vous voulez, de cette région. Si on descend plus au sud, je ne vois pas les pays africains suivre ce mouvement et se fractionner comme cela entre sunnites et chiites et rompre, par exemple, les relations diplomatiques avec l'Iran.
Merci, professeur.
D'ailleurs, que je crois qu'il y a la volonté aujourd'hui de un peu calmer le jeu. Elle devrait se manifester dans les semaines qui viennent.
Il nous ne reste plus beaucoup de temps, professeur. On a Draman Kone en ligne. Draman, allez-y très rapidement.
Ok, merci. C'est juste une petite interview. Moi, je pense que cette accusation concerne le musulman dans le monde entier. Donc, pour moi, si il y a une accusation comme celle-là, je crains beaucoup. Est-ce que dans le monde entier, les musulmans, ça ne va pas créer des problèmes? Allô, monsieur?
Oui, allez-y, on vous entend.
Voilà, donc c'est l'inquiétude qui est là. Donc si l'accusation va créer des problèmes dans...
De quelle accusation vous parlez?
Vous dites?
De quelle accusation vous parlez?
Voilà, c'est concernant l'Arabie Saoudite, ce que j'ai vu ce matin sur l'interview.
Oui, qu'est-ce que vous avez vu? Oh, malheureusement, on l'a perdu. Mais malheureusement, Mokhtar Ba, allez-y, rapidement, Mokhtar Ba.
Oui, c'est que je veux poser seulement une question concernant cette affaire.
Allez-y.
Oui, la première question, c'est que, quelles sont les différences de plus entre l'Arabie Saoudite et l'Iran?
Ok.
Parce que, la manière dont l'affaire part alors là, parce que tous les pays qui sont alliés à l'Arabie Saoudite ont déjà fait sortir les partenaires iraniens dans leur pays, c'est-à-dire les ambassades et autres, tous les diplômes
d'Iran
sont virés.
Professeur, pensez-vous que cela ait de plus grandes répercussions dans la région, surtout une région aussi troublée que le Moyen-Orient?
D'une part, il faut souhaiter que non, évidemment, parce que vous l'avez dit, c'est une région tellement troublée qu'on n'a pas besoin.
Allez-y, professeur.
Oui, il n'y a plus... D'abord, il faut contenir à tout prix cette crise, parce que se passe dans une région qui n'a pas besoin d'une crise supplémentaire. Et d'autre part, encore une fois, je crois que maintenant, la diplomatie se met en marche pour l'instant, contenir la crise, empêcher que l'effet boule de neige se passe, et ensuite essayer de la réduire, parce que beaucoup de choses sont en jeu. Il faut s'entendre sur la Syrie, il faut s'entendre sur le Yémen, il faut s'entendre sur l'Irak. Donc on a besoin d'une collaboration entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, d'une collaboration même minimale.
Merci beaucoup. Donc c'était le professeur Béchir Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York. Je remercie ma collègue Kadiatou Traoré. Léonard Gahima, de l'autre côté de la vitre, c'était le dialogue des religions, le thème d'aujourd'hui, la crise entre l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran chiite. Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème politique ou religieux? Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia, VOA Afrique. Merci à nos auditeurs pour leur réaction sur Facebook et leur participation en direct à l'émission VOA Afrique.